Alors, on continue donc cet entretien sur l'évocation dans le diocèse de Tarbes-Lourdes avec Oscar Gnagnon, séminariste, et l'abbé Pierre Jamais, vicaire général et curé de Lourdes. Alors, on continue sur cette formation. Alors, peut-être c'est des questions qui vont vous faire sourire, mais est-ce qu'on est en pleine période des examens scolaires. Alors, est-ce qu'un séminariste peut redoubler, abbé Pierre Jamais? Est-ce qu'on peut recommencer? Est-ce qu'on a le droit à une année? Parce que bon, c'est une année d'études. Ce sont des années d'études quand même. Ils sont étudiants, ces séminaristes. Est-ce qu'ils ont le droit de louper leur examen de fin d'année?
Il y a toujours des exceptions, mais les exceptions confirment la règle. Mais
C'est-à-dire que chaque cycle est validé au fur et à mesure des années ou c'est en bloc?
donc effectivement, il y a aussi au séminaire donc des périodes d'examen. Pour ce que j'ai connu donc au séminaire de Toulouse, donc pour le premier cycle jusqu'à présent, la majorité des examens en fait sont des évaluations orales, donc qui se font en fin de semestre. En général, c'est chaque formateur ou chaque professeur ou enseignant-enseignante qui, dans son domaine, définit les modalités d'examen. Ça peut être voilà, un écrit à rendre avec ensuite un oral qui, voilà, pour en discuter. Ça peut être des sujets à préparer à l'avance qui sont présentés le jour J avec ou sans temps de préparation. Voilà. Et donc effectivement, comment dire, c'est important d'avoir des examens pour justement vérifier la bonne compréhension et voilà, comment dire, on pourrait dire une assimilation suffisante des connaissances qui ont été données donc par le séminariste. Ceci étant, j'ai de façon aussi assez régulière, voilà, entendu aussi que l'insistance était d'abord pour la formation au séminaire, qu'elle soit une formation qui se veut vraiment intégrale et qui ne doit pas se focaliser d'abord sur par exemple, sur les notes ou sur les résultats scolaires. Enfin, académique, j'entends. Alors, pour le second cycle, bien que je n'y suis pas encore moi-même, donc bien sûr, j'ai pu échanger avec d'autres séminaristes et puis voir un peu comment ça se passait pour les aînés. Et donc, il se trouve que les diocèses qui envoient leurs séminaristes donc à Toulouse, le second cycle, la formation pour les cours, s'effectue donc à l'Institut catholique de Toulouse. Et la majorité des diocèses ont on va dire comme exigence que les séminaristes, avant l'ordination, aient obtenu le baccalauréat canonique. Donc, alors, la majorité, en fait, l'obtiennent, on va dire, lors des sessions d'examen prévues. Ceci étant, voilà, j'ai déjà rencontré, par exemple, tel séminariste qui avait un peu de mal avec telle matière et puis qui a dû passer au rattrapage ou qui, parfois, est revenu un certain temps après, par exemple, pendant l'année de synthèse, pour compléter en rendant un devoir dans tel ou tel domaine. Donc, voilà. Il y a une certaine souplesse qui est conservée, et en même temps, c'est bien aussi d'avoir, on pourrait dire, ce diplôme du baccalauréat canonique pour donner un peu une référence en termes de connaissances suffisantes, ou en tout cas, on va dire, un certain seuil ou un niveau de connaissances plancher, si je puis dire, pour la majorité des séminaristes, quoi.
Alors j'ai encore une question avant de passer à la suite sur le fond de cette formation, puisque vous nous parlez de théologie, de droit canonique, etc. Quid de la formation plutôt humaine? Alors vous allez me dire que c'est lié tout ça, mais enfin le futur prêtre, il doit aussi se préparer à être dans le monde, à être dans une paroisse avec des familles qui auront leurs problèmes, leurs malheurs. Comment vous êtes préparé à ça au séminaire, à vivre ben, au milieu du monde qui a ses tourmentes, ses blessures et qui n'est pas toujours lisse? Est-ce que le séminaire, alors je me fais un peu l'avocat du diable, hein, mais c'est fait exprès pour vous faire réagir, est-ce que le séminaire ne vous met pas un peu sous une cloche comment vous faites pour être préparé à ce qui vous attend par la suite?
Alors, je ne pense pas que le séminaire soit une cloche sous cet aspect-là, mais en tout cas, comment dire, on pourrait voir en fait la question sur plusieurs rapports. D'abord vis-à-vis en fait de ce qui va être des connaissances qui vont faire grandir aussi donc dans la maturité humaine. On a au séminaire donc des cours de psychologie et de sexologie aussi. Ça en fait partie depuis un certain nombre d'années maintenant. Il y a aussi la vie communautaire qui est, comment dire, une des dimensions vraiment des plus fondamentales en fait dans la formation au séminaire, précisément parce que c'est aussi là qu'on est confronté aussi aux différences des autres, aux différentes sensibilités, aux différences de parcours, aux différences de convictions aussi sur tel ou tel sujet. Et c'est vrai que cette vie communautaire, elle est à la fois, comment dire, exigeante et par moments vraiment éprouvante. Et en même temps, c'est aussi ça qui nous permet, bah, de grandir et puis de construire à la fois une fraternité et en même temps de, ben justement de, comment dire, d'entrer dans une dynamique d'ouverture aussi aux autres. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu paradoxal de se dire qu'au moment où on n'est que entre jeunes garçons dans certaines tranches d'âge, tous appelés à devenir prêtres, bon ben c'est, enfin tous appelés, du moins ayant tous ressenti un appel à devenir prêtre, ça pourrait sembler être comme une sélection de personnes qui sont toutes les mêmes, et en fait non. Et bon, ce qu'on se rend compte, c'est que justement cette formation communautaire, elle est vraiment très importante pour chacun de nous individuellement. Et après, il faut voir aussi que les temps où on va vivre en paroisse fait qu'on va rencontrer, ben voilà, des fidèles aussi de sensibilités différentes et de parcours différents. Et là aussi, les différentes activités dans lesquelles on va être impliqué, que ce soit en pastorale des jeunes, que ce soit en rencontrant des personnes en précarité, des recommençants vis-à-vis de la foi, etc., etc., ben fait que voilà, on va être confronté aussi à diverses réalités. Et je pense vraiment que tout cela permet de mûrir. Voilà, tout en sachant que bien sûr, il n'y aura jamais non plus de système parfait. Et donc, il y aura toujours, je pense, des petites choses qu'on peut potentiellement améliorer ou peaufiner. Mais en tout cas, disons, le cadre tel qu'il est proposé et vécu aujourd'hui me semble en tout cas fort sage.
Pierre, jamais vous voulez réagir.
Oui, simplement pour rebondir en effet sur ce que dit Oscar Emmanuel, il y a au moins trois marqueurs qu'il faut bien remarquer. Le premier, c'est le temps, la durée. Alors, vous avez vu que cette formation va se déployer sur plusieurs années, ce qui n'est pas rien. Les formations intensives pour la théologie et pour la maturité spirituelle n'ont pas lieu d'être au sein de l'Église. Voilà, il faut laisser du temps au temps. Il faut laisser du temps pour s'imprégner de toute une culture biblique, théologique, spirituelle. Voilà. Et donc, au long de cette durée, un certain nombre de choses, de réalités vont apparaître. Ensuite, vous avez dit, là, le deuxième marqueur, est-ce qu'en effet, en mettant les gens dans un séminaire sous cloche, non. Quand on rentre dans un séminaire, même si a priori on pourrait penser que c'est une sorte un peu de vase clos parce qu'il y a un peu une coupure, le monde ne reste pas à la porte. Le monde, il est en nous. Donc, vous mettez des personnes ensemble. Ben, c'est le monde qui recommence d'une certaine façon. Et donc c'est un lieu d'apprentissage pour arriver à se connaître et à connaître les autres, connaître ses propres limites, ses propres faiblesses, à la fois connaître également ses lignes de force, son potentiel, son charisme aussi, pourquoi pas, mais avoir une connaissance réelle de soi-même et puis des autres. Et vous évoquiez en effet la réalité d'un travail humain, il est là. Et d'où la nécessité que cette réalité soit bien accompagnée. Et je crois que nous avons la chance aujourd'hui d'avoir des formateurs qui sont à même de faire ce travail.
Voilà, bah je voulais vous faire réagir et c'est gagné. Alors, nos séminaristes dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes, ils sont au nombre de 6, si je ne me trompe pas, 2 propédeutes et puis 4 qui sont déjà rentrés dans le premier cycle. Voire qui ont terminé le premier cycle, comme vous, Oscar Emmanuel. Alors, c'est vrai, des profils très différents. D'ailleurs, les visages et les parcours peuvent être lus, découverts sur ce petit dépliant qui est en train d'être distribué un petit peu partout dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes, où on peut découvrir le visage de ces séminaristes. Alors, vous y êtes, Oscar Emmanuel, mais il y a aussi Elias Corentin, 2 Corentins. Voilà, donc c'est intéressant aussi de voir ces profils différents de jeunes hommes qui ont le désir de servir le diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Oscar Emmanuel, j'aimerais bien que vous nous parliez de ça, puisque aujourd'hui, cette émission, elle est aussi faite pour rappeler aux auditeurs du diocèse de Tarbes-et-Lourdes, notamment, qu'on a besoin d'eux pour soutenir la formation des séminaristes, pour la soutenir par la prière, mais aussi par le financement. Alors, c'est peut-être intéressant aussi de dire pourquoi vous avez eu le désir, pourquoi vous avez le désir de devenir prêtre ici chez nous, dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes.
Alors, c'est un petit peu le résultat, on va dire, d'un, oui, d'un, d'un certain processus qui s'est fait, que je n'ai pas forcément commandé moi-même. Voilà, disons que avant d'être au séminaire moi-même, donc j'avais fait des études supérieures, j'avais travaillé, j'avais habité d'abord dans l'agglomération toulousaine. Et c'est en fait à ce moment-là qu'en étant voilà interpellé par des paroissiens, justement d'une paroisse que je fréquentais à ce moment-là, que voilà les premiers questionnements vis-à-vis de la vocation ont commencé à émerger. Et ensuite, bon, il a fallu, comment dire, un premier temps d'accompagnement pour voilà, décanter un certain nombre de choses et d'autres questions qui se posaient à ce moment-là, et notamment des questions par rapport au mariage d'ailleurs. Il se trouve qu'en fait, en changeant de travail au bout de 2 ans, eh bien, je suis arrivé dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes, plus précisément à Bagnères-de-Bigorre au début. Et c'est lorsque j'y étais, en fait, que voilà, notamment par le biais de la pastorale des jeunes, j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes qui ont, comment dire, un petit peu vivifié par leurs interventions ou leurs questions ou autres. Voilà, ces questionnements vis-à-vis d'un appel vocationnel que je portais déjà. Et par des temps forts aussi que j'ai pu vivre, voilà, des temps plutôt personnels assez intenses aussi au sanctuaire de Lourdes, voilà, qui m'ont en tout cas fait bouger, si je puis dire, pour reprendre les choses vraiment au sérieux et vouloir, comment dire, m'en ouvrir aussi, voilà, auprès de la paroisse, puis ensuite à Monseigneur Brouvet, puisque c'était Monseigneur Brouvet à ce moment-là qui était donc l'évêque du diocèse. Et voilà, donc c'est avec divers accompagnements, avec diverses rencontres, avec divers temps forts personnels, que voilà, il y a quelque chose qui a permis d'identifier un appel crédible à devenir prêtre. Voilà, maintenant, c'est vrai que si on posait cette question en fait à tous les séminaristes, on aurait voilà, autant de réponses différentes que de séministes. Voilà, certains autres vont avoir parfois pourront vous répondre qu'ils ont ressenti un appel très fort quand ils étaient petits, et d'autres à l'occasion d'une certaine célébration liturgique, d'autres voilà, dans plein de conditions diverses. Et donc, c'est vrai que pour moi, ensuite, le lien avec le diocèse de Tarbes-et-Lourdes s'est fait d'une part parce que mon cheminement s'est vraiment confirmé après être arrivé en fait dans les Hautes-Pyrénées. Et d'autre part aussi, voilà, parce que bon, y a aussi une personne de ma famille qui s'est installée voilà, dans les Hautes-Pyrénées un certain temps après. Et voilà, et en fait, comment dire, c'est avec le temps aussi que à la fois la découverte du diocèse se poursuit et que l'ancrage aussi se confirme au fur et à mesure.
Alors, on va passer à la question des finances, puisque cette formation des séminaristes, il faut bien la financer. 180 000 euros, c'est le montant, hein, c'est le coût qui comprend la rémunération des formateurs, des enseignants, du personnel, les frais de logement, de déplacement, des séminaristes. Les séminaristes reçoivent une petite allocation pour leurs besoins personnels. Tout ça est à la charge du diocèse. Et donc, le diocèse, comme dans chaque diocèse, eh bien, sollicite la générosité des catholiques de son territoire pour soutenir. Alors, peut-être que parmi nos auditeurs, certains se disent, bah, moi, j'ai des enfants, des petits-enfants qui font des études. Pourquoi j'irais payer les études d'un jeune garçon, même s'il veut être séminariste, même s'il veut être prêtre, et même s'il veut être prêtre chez moi? Est-ce que vous pouvez comprendre, entendre cette réflexion, Pierre Jamais? Puis qu'est-ce que vous pouvez répondre? À quoi ça sert de solliciter la générosité des uns et des autres pour soutenir la formation des séminaristes?
J'aurais envie de répondre en plaisantant que c'est un investissement qui ne s'amortit pas, sinon dans la durée et en étant création de richesses insoupçonnées, parce que quand ce séminariste aura été ordonné, eh bien, de par son ministère, il sera lui en capacité aussi ben, de susciter la foi, la conversion, l'affermissement de la foi, et cela n'a pas de prix. Alors oui, c'est une formation qui a un coût et le diocèse, comment dirais-je, ne rechigne pas à ça parce que c'est, je dirais, il en va même de la pérennité de l'Église, que l'Église puisse assurer la continuité et puis la formation de futurs prêtres. Il me semble que ça tombe sous le sens, je ne sais pas.
Oui, alors après, c'est vrai qu'à titre personnel, effectivement, ayant fait des études supérieures profanes, enfin, sous-entendu, voilà, dans le domaine de l'ingénierie, bien avant d'entrer au séminaire, alors je peux comprendre effectivement que ça puisse faire un peu réagir certaines personnes de voir voilà, ce coût qui paraît effectivement de très élevé quand même, qui l'est d'ailleurs, et voilà, de se dire que faire tout reposer sur les donateurs pourrait être un peu excessif. Et en même temps, je pense qu'il faut aussi entendre le fait qu'il y a eu voilà, un choix dans l'Église de France de vouloir permettre la pleine liberté dans le discernement aussi des candidats, voilà, en faisant en sorte qu'il n'ait pas par exemple, à s'endetter eux-mêmes pour leurs études ou des choses comme ça, d'une part. Et d'autre part aussi, je pense que ça peut, pour les séminaristes, nous apprendre, enfin, être une façon aussi de nous rappeler que voilà, pour ceux qui, bien sûr, iront au bout du parcours et qui seront bien ordonnés, qu'en fait, on n'est pas prêtre pour soi et qu'en fait, c'est précisément pour j'allais dire, le peuple chrétien, du diocèse de Tarbes-et-Lourdes, en fait, que nous serons ordonnés. Et qu'en fait, c'est dans ce sens-là, c'est bon que déjà on se sente dépendant de ce peuple, déjà en fait dans la formation, en se rappelant qu'on lui est redevable. Voilà, redevable d'une part parce que ben, notre vocation, elle mûrit aussi dans ce diocèse, et puis d'autre part aussi parce que c'est le diocèse qui nous permet de la vivre. Alors je ne prétends pas voilà, que cette façon de faire soit la seule et l'unique. C'est vrai que si on regarde dans d'autres pays dans le monde, des choses peuvent être différentes. Mais voilà, en tout cas, ce choix qui a été fait dans l'Église de France. En tout cas, apparemment, semble fonctionner. Voilà.
Abbé Pierre Jamais, vous voudriez, avant de terminer cet entretien, préciser un peu plus en détail qu'est-ce qu'il y a derrière ce coût? J'ai dit le chiffre de 180 000 euros, ça représente quoi exactement?
Alors, cela peut représenter beaucoup, mais si on dissèque ce chiffre, ça veut dire que réparti par séminariste, ce qui fait 30 000 euros par an, à peu près. Et ces 30 000 euros se répartissent de la façon suivante. Il y a d'abord tout ce qui est relatif à l'hébergement, à l'alimentation, la nourriture. Donc, il y en a à peu près pour 11 000 euros. Il y a le coût même de la formation. Hein, payer les formateurs et le lieu de la formation, il y en a à peu près pour 8 000 euros. Nous engageons dès à présent les séminaristes dans la prise en charge sociale. Et cela représente un coût de 7 000 euros. Parce qu'en effet, il y a une responsabilité de notre part hein, vis-à-vis de ces personnes-là. Et puis, chaque mois, eh bien, le séminariste reçoit un petit pécule pour gérer son petit quotidien. Et tout ça représente à peu près 3 500 euros. Donc, l'enveloppe globale, 30 000 euros.
Voilà, ils sont en mission pour se former, pour donner leur vie à Dieu et aux hommes. Ce sont les séminaristes dans le diocèse de Tarbes et Lourdes. 6 hommes se préparent à servir notre église diocésaine dans les Hautes-Pyrénées. Et pour les soutenir, déjà on peut prier pour eux, bien sûr, on peut prier pour les vocations. Ça, on peut le faire tout le temps. Et puis, en ce moment même, a lieu une campagne d'appel aux dons spécifique pour soutenir la formation des séminaristes. Vous pouvez les soutenir par votre don en allant sur le site du diocèse catholique65.fr et puis aussi grâce à ces dépliants que j'évoquais tout à l'heure et qui sont distribués partout dans les paroisses. N'hésitez pas à aller voir dans votre paroisse, au secrétariat, dans les secrétariats paroissiaux, dans les églises. Il y a ce petit dépliant spécifique sur les séminaristes. Vous pourrez y découvrir les visages des séminaristes de notre diocèse avec un petit mot de chacun. Et puis, ça vous explique les bonnes raisons de soutenir nos séminaristes et leur mission et leur formation. Voilà, vous pouvez faire un don. Il n'y a pas de petit don. Chaque don est le bienvenu. Merci à tous les deux, Abbé Pierre Jamais, Oscar Emmanuel Nognon, pour vos réponses et très bel été dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes.
Merci, Yann Rose.